Vous écoutez les séries Choc.
Précédemment, dans les doigts jaunes.
Nos gens de production travaillent avec des masques à gaz.
Ça évoque les séries américaines.
Quelques salons de quai, des clubs sportifs.
C'est dégueulasse. C'est...
Ça ressemble à une cocotte.
Est-ce que tu pleures, Will?
Oui.
On l'appelle le cracker.
Oh, wow!
C'est pétillant.
Soit plus granuleux, plus crémeux.
Certains ouvrent leur piscine à ce temps-ci de l'année. Nous, on se fait commander de la moutarde.
À quand l'ONM?
Un voyage au travers du temps et de l'espace, des différents types de moutarde, en incluant la moutarde en grain et la moutarde au wasabi.
Moutarde, mustard, zen, kherdelin, sinap, mouchtard,
seinap,
garchichne, moshchitsa,
Il était une fois la moutarde.
Vous écoutez Les Doigts Jaunes, un podcast exquis entièrement dédié à la moutarde. Bonjour, ici Paul Charpentier
et Félix Deschênes. À ce stade-ci, Paul, on a déjà parlé de l'industrie de la moutarde dans le monde.
Oui, on est retourné aux sources aussi. On a tenté de voir de quoi il s'agit du point de vue botanique quand on parle de moutarde.
Mm-hmm. Et puis après, on est allé visiter des fabricants, un industriel et un artisanal, pour mieux comprendre comment on produit la moutarde ici.
C'est donc le temps de partir à l'aventure pour tenter d'analyser où se situe la moutarde dans les diverses cultures culinaires du monde. Le début d'une longue odyssée. On commence par où?
Paul, qui dit moutarde dit...
Moi, je pense à la France, à l'Europe, bien sûr. Il y a Dijon, par exemple, qui me vient en tête. L'Est européen, les saucisses, les bretzels, moutarde. Juste à y penser, ça donne faim.
Ouais, j'ai l'eau à la bouche. Mais puisqu'on reconnaît notre occidentalocentrisme à la base, puis qu'on veut vraiment partir à la découverte, je pense qu'on doit se donner le défi de commencer notre périple sur un autre continent. Un continent où la moutarde a été historiquement et est toujours au cœur de pratiques et de traditions variées, j'ai nommé l'Asie.
Cap sur l'Orient. L'Orient.
Philippe de Vienne avait déjà fait un peu un tour d'horizon là, des utilisations de la moutarde en Asie.
Donc c'est ça. En Asie, la moutarde brune sert plutôt à faire des condiments en Chine, au Japon, en Corée. Tandis que dans le sud de l'Asie, surtout en Inde et au Sri Lanka, la moutarde est utilisée comme épice.
Il nous avait introduit aux utilisations diverses de la moutarde dans ces régions du monde, mais là, c'est une occasion d'aller plus en profondeur et avec des experts.
Ah oui, t'as rencontré des experts de différents pays?
C'est ça, en commençant par l'Inde qui, très clairement, n'a pas une culture culinaire, mais des cultures culinaires. Et là, pour débrouiller tout ça, ben, j'ai parlé avec Veena Gokhale.
Je m'appelle Veena Gokhale et je donne les cours de cuisine indienne, végétarienne, et aussi je suis un écrivain.
Et puis j'ai parlé à Guillaume Lozeau.
Je m'appelle Guillaume Lozeau, je travaille au restaurant Le Super Qualité, je suis un des propriétaires là-bas. Puis on est un restaurant qui spécialise dans la cuisine, surtout du sud de l'Inde.
Et les deux s'entendent pour dire, Paul, que la moutarde, eh ben, c'est central dans la cuisine en Inde.
Ça se retrouve dans, je dirais, 80 % des plats qu'on cuisine.
En effet, la moutarde est utilisée partout et presque chaque jour en Inde, dans la cuisine quotidienne. C'est la moutarde noire.
Brassica nigra.
Pas la moutarde blanche ou jaune.
OK. Et sous quelle forme on la retrouve le plus?
Ben, si on dit que c'est beaucoup plus une épice qu'un condiment là-bas, la manière la plus fréquente d'utiliser la moutarde, c'est dans ce qu'on appelle les temperings.
C'est pas utilisé comme condiment, comme ici, là. C'est pas en sauce comme ça. C'est utilisé dans les temperings. Un tempering, c'est une technique vraiment typiquement du sous-continent indien où tu fais réchauffer un corps gras et tu rajoutes des épices par la suite. Ce qui va transformer le goût de l'épice, mais transformer aussi, donner un goût à l'huile. Comme quand les gens font une huile pimentée. Ça transforme le goût du piment, mais ça transforme aussi le goût de l'huile qui prend le goût du piment. C'est la même chose, mais les autres, ils vont utiliser du cumin, des feuilles de kari. Mais souvent, surtout dans le sud de l'Inde, la moutarde. La moutarde, ça revient pratiquement toujours dans les tempering, avec les feuilles de kari.
Rien mieux que de le voir pour le comprendre. Paul et Guillaume Lozo m'ont invité dans sa cuisine pour nous montrer.
Une belle occasion.
Le tempering, c'est toujours, tu fais cuire un corps gras. Nous autres, on utilise beaucoup de l'huile, soit de l'huile de sésame, l'huile de tournesol, l'huile de noix de coco, du ghee, du beurre clarifié. Mais là, cette fois-ci, on fait le tempering pour un dokla. Dokla, c'est comme une galette fermentée, faite à partir de semoule. Puis on fait le tempering, ça fait comme une espèce de topping un peu crunchy. Ça transforme le goût des épices, parce que ça les torrifie, ça les frit d'une certaine façon. Ça donne aussi beaucoup de goût à l'huile. Fait que l'huile, elle est transformée, puis elle va goûter rôti. Ça va goûter tous les ingrédients qu'on va mettre dans l'huile, dans le fond. Là, alors, je commence avec le cumin. Je sais pas si t'es capable de capter le bruit du cumin. Next. La moutarde. Les feuilles de carré. That's it. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais juste verser sur le dos là. Voilà.
Donc c'est pas plus long que ça?
Non, juste une vingtaine de secondes.
Oh wow.
Donc le moutard est utilisé avec les autres épices frites. Et après ça, nous ajoutons le riz, l'oignon, les autres légumes ou viande, quelque chose comme ça.
Donc, on se trouve des graines de moutarde qui sont croustillantes et aromatiques, qui ont été transformées par la cuisson, qui ont perdu un peu leur piquant, mais qui ont acquis des arômes un peu de noisette. Et c'est probablement l'usage principal de la moutarde dans le monde. C'est ça qui est surprenant.
Sinon, la moutarde est aussi présente dans les marinades, qui sont très, très populaires en Inde. Puis c'est d'ailleurs une des rares fois où on consomme des graines blanches.
C'est une épice alba.
C'est ça qu'on retrouve dans les chutneys ou dans le célèbre mango pickle?
Entre autres, oui. Puis à chaque fois, ça fait office d'accompagnement dans les plats.
Il y a variété de cornichons en Inde, principalement faits avec la mangue, le citron et les légumes variés. Et nous utilisons en effet la moutarde jaune ou blanche pour cette recette-là.
C'est difficile à décrire comme goût. C'est très, très salé. Il faut manger vraiment des petites quantités avec chaque bouchée, avec le riz, avec le yogourt. C'est vraiment très, très, très bon. Ça vient rehausser, là. Quand tu commandes un tali ou une assiette avec différents petits plats, il va toujours avoir un pickle. Le sud de l'Inde, c'est pratiquement toujours citron ou mangue verte.
Donc, c'est vraiment exclusivement comme une épice en Inde.
C'est surtout utilisé comme ça, Paul, mais l'Inde n'est vraiment pas homogène et...
Il y a l'huile de moutarde, qui est très utilisée dans l'est de l'Inde. C'est l'huile de tous les jours. C'est une huile qui, quand elle n'est pas chauffée, est toxique.
Oui, c'est cette huile-là qui est frappée de restrictions au Québec. Je me rappelle que c'était écrit en arrière de la bouteille pour usage externe seulement.
Mais en Inde, depuis des milliers d'années, on prend les graines, l'huile de moutarde... On la fait chauffer. Une fois qu'elle est chauffée, ça la détoxifie complètement. Et elle sert dans toute la région de l'est de l'Inde, au Bengale notamment, et au Bangladesh. C'est une huile très savoureuse, comme on peut s'imaginer, qui relève bien les plats.
C'est vraiment piquante, l'huile de moutarde. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, c'est quelque chose.
OK, donc les graines surtout, l'huile. Est-ce qu'on consomme les feuilles aussi, comme les greens?
Dans certains endroits précis en Inde, oui.
En Inde, il y a beaucoup de plats avec les légumes qui s'appellent sabzi. Nous avons aussi beaucoup de plats qui utilisent les feuilles vertes de toutes sortes. Il y a un plat vraiment délicieux, il s'appelle sarson ka saag, sarson et la moutarde. Et c'est fait simplement dans le nord de l'Inde. Et c'est fait pendant l'hiver et le printemps. C'est le temps que la plante est vraiment abondante. Donc, dans le nord et aussi l'État qui s'appelle Rajasthan, qui est plus dans l'ouest.
Donc, avec toutes ces déclinaisons-là de la moutarde, on a décidé d'aller voir à quel point tout cela était accessible sur les tablettes. Pour ça, on est allé à Parc Extension, un quartier très cosmopolite ici à Montréal. Disons que ça n'a pas été très long. En entrant dans une épicerie, la première chose qui nous saute aux yeux,
c'est une conserve de sarsane cassag, mustard leaves puree. Donc, ça ressemble un peu à des épinards, mais ce sont des feuilles de moutarde.
Qui seraient broyées avec quel autre ingrédient?
Qui sont broyés, donc c'est feuilles de moutarde, épinards, piment vert, farine de maïs.
Donc j'imagine que ça fait quelque chose comme une purée condiment, peut-être, avec des viandes ou avec des croustilles?
Oui, j'ai l'impression, oui, avec des viandes, entre autres. Je sais qu'on sert ça des fois avec de l'agneau, entre autres. Donc ça pourrait être intéressant.
Mm-hmm, on continue la balade. Évidemment, on tombe sur une très vaste sélection d'huiles de moutarde.
Et c'est très intéressant parce qu'il y en a plus qu'une sorte. Et on ne parle pas juste de compagnie, mais en fait, il y a des différentes sortes de... j'imagine que c'est des différentes qualités. On voit ici, il y en a, c'est l'huile de moutarde cold pressed, un peu comme l'huile d'olive.
C'est ça, pressée à froid. On dirait différents indices de pureté. Il y en a des plus foncés, il y en a des plus translucides.
Oui, il y en a une qui est très, très foncée, presque noire, hein, couleur mélasse à la limite. C'est intéressant aussi, on le voit, c'est pour la plupart très clairement indiqué, pour usage externe seulement.
Devant nous, il y a une rangée de ce qu'on pourrait presque appeler des petits barils de marinade, à un prix très modique, hein?
Effectivement, des barils, là, on parle de, tu sais, des contenants de 950 millilitres et plus, qui se vendent à environ 3 ou 4 $.
Ouais, c'est marqué 1 kilo.
Ouais, mine de rien, c'est on en a pour notre argent.
On vient de trouver un autre contenant de marinade de mangue. Et là, si on lit les ingrédients, Paul, qu'est-ce que ça donne en français?
Oh, attention, Félix, je crois que j'ai entre mes mains une licorne, comme on dit. Non seulement il y a des graines de moutarde, mais de l'huile de moutarde.
Verdict, on en a trouvé aisément dans plusieurs marchés du quartier. Je pense que ça témoigne de l'importance du condiment dans la culture alimentaire en Inde. Et puis ça, cette place centrale qu'occupe la substance, ben nécessairement, ça crée un imaginaire qui est fort, des sources de souvenirs, de mémoire, ça stimule les sens, par exemple.
Moi, j'ai le souvenir de... parfum de moutarde ou l'odeur de moutarde dans ma cuisine et dans ma maison aussi.
La senteur, quand tu fais un tempering avec les graines de moutarde, les feuilles de curry, les piments, c'est une des meilleures senteurs au monde. Toute la cuisine sent, c'est vraiment typique, ça ressemble à rien d'autre. Ça rappelle vraiment l'Inde, là.
Bref, pour récapituler, plusieurs cultures culinaires au sein d'un même pays.
Ouais.
La moutarde est utilisée dans à peu près toutes ces traditions-là comme une épice utilisée pour parfumer les corps gras en début de repas.
Oui, c'est ce que Guillaume Lozo appelait des temperings.
Oui, c'est ça. Mais aussi, dans certaines régions, les graines de moutarde sont au cœur des recettes de marinade. Et les feuilles, surtout dans le Nord, sont incluses dans les recettes végétariennes.
Bingo! Ça fait pas mal le tour de la moutarde en Inde.
Dans quelles autres régions de l'Asie la moutarde est aussi présente?
Bon, quand on monte vers le nord, la moutarde est aussi très présente, mais sous des formes assez différentes de celles qu'on retrouve en Inde.
La moutarde comme condiment, c'est très européen ou nord de l'Asie. Les Japonais et les Chinois aiment vraiment la moutarde très, très, très piquante et s'en servent un peu comme condiment de table, comme nous, on fait en Occident.
Cette fois-ci, pour nous parler de la culture entourant la moutarde dans cette région-là, on s'est entretenu avec Christopher Laurent.
Christopher Laurent.
Il est chercheur postdoctoral à l'Université de San Francisco. Au moment de réaliser l'entrevue, il était doctorant en anthropologie à l'Université de Montréal et faisait de la recherche au Cerium. Il se spécialise en anthropologie alimentaire et il est justement allé au Japon pour faire ses études de terrain.
Donc, il y a à peu près 2 ans de ça, je me suis intéressé à la question de la moutarde. Ce qui m'intriguait, en fait, c'était que la moutarde et le wasabi, en fait, il y avait une brûlure, une sensation qui était très similaire, qui était nasale. Puis je me suis posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose en commun avec ces deux choses? Est-ce qu'il y a des choses en commun avec la biologie de ces deux produits? Et est-ce qu'il y a quelque chose en commun avec la culture ou l'utilisation de ces deux produits?
Christopher a donc été amené à publier un article scientifique sur l'évolution de la moutarde.
Et c'est un article général sur un voyage au travers du temps et de l'espace des différents types de moutarde, en incluant la moutarde en grains, mais aussi la moutarde Rainfort et la moutarde Wasabi. Je pense qu'il y a une sensation, il y a une expérience qui est partagée, et cette expérience est très différente de l'expérience qu'on ressent quand on mange de l'épicé, par exemple capsicum ou un piment épicé. Et je me suis penché sur la question, j'ai creusé, et puis je pense que mon argument tient la route, qu'il y a quelque chose qui rassemble toutes ces expériences.
Au final, la moutarde et les dérivés de la grande famille de la moutarde qui sont consommés au Japon sont pas mal différentes de ce qu'on pourrait penser.
Il y a deux types de moutarde. Je parlais du premier type de moutarde qui est importé de Chine, qui s'appelle karashi. Alors, donc ce karashi, c'est une moutarde qui est faite à base de graines brunes ou noires.
Brasca nigra.
Donc c'est la moutarde qui est beaucoup plus forte que la moutarde de maille ou la moutarde américaine. Et c'est une moutarde qui est utilisée souvent sur les plats étrangers. Donc, c'est-à-dire la cuisine chinoise au Japon, qui est une cuisine qui est particulière, c'est pas la cuisine chinoise de Chine, c'est la cuisine chinoise au Japon, utilise beaucoup de ce karashi, de cette moutarde piquante. D'autres plats comme le tonkatsu, c'est un plat de côte de porc pané. Ce plat aussi utilise beaucoup ce karashi, c'est une moutarde forte. Pour décrire un peu la sensation de cette moutarde, c'est une moutarde qui n'a pas de vinaigre, qui est mélangée avec de l'eau, donc qui est très 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 forte. Puis on ressent la sensation nasale immédiatement quand on en mange, donc il faut l'utiliser vraiment en très petite dose. Donc ça, c'est un type de moutarde qui est très utilisé au Japon. L'autre type qui est très important et que je considère faire partie de la famille des moutardes, c'est le wasabi.
Le wasabi, on connaît ça, on en mange avec des sushis et c'est assez commun à Montréal. Mais ce qu'on achète quand on choisit du wasabi ici, c'est pas mal plus parent avec la moutarde qu'on penserait.
La vaste majorité du wasabi qu'on va consommer, que ce soit au Japon ou que ce soit dans le reste du monde, par exemple au Québec, c'est un mélange de Rainfort et un mélange de farine de moutarde. Et puis on mélange aussi des colorants verts pour lui donner une teinture verte. En vérité, c'est pas du wasabi, c'est une imitation du wasabi. Et le vrai goût du wasabi est beaucoup plus délicat, beaucoup moins fort et beaucoup plus complexe. Alors, tout le monde connaît le wasabi ici. C'est quelque chose qui est très fréquemment utilisé sur les sushis. Mais c'est utilisé aussi avec les nouilles soba, les nouilles au sarrasin. C'est utilisé aussi avec d'autres types de viande, mais ça coûte environ 10 à 20 fois plus cher que l'imitation qu'on appelle du wasabi ici.
Et c'est donc ça la différence principale avec la moutarde.
Oui, c'est pile celle-là. On parlait de la moutarde comme le condiment du paysan dans la tradition française ou même en Nouvelle-France. Alors que le wasabi, lui, le vrai, c'est un aliment luxueux, un marqueur social qui est loin d'être accessible à tous. Et Paul, qui dit « élément de luxe », dit nécessairement « convoitise », et donc « lutte de pouvoir ». Des luttes qui, dit-on, auraient même été importantes historiquement dans le façonnement politique du Japon.
Il y a plein d'histoires, en fait, autour du wasabi, et une des histoires qui est très fameuse, c'est que dans la période Tokugawa, donc c'est une période qui a duré 300 ans, où il y a une dictature militaire au Moyen-Âge, le grand leader Ieyasu Tokugawa, en fait, a décrété que le wasabi devrait être un mets réservé aux personnes riches, et il a décrété que ça sera produit seulement dans une seule région du Japon pour remplir les besoins de la nobilité, les nobles japonais. Donc il y avait vraiment une question de stature. Et toujours aujourd'hui, quand on utilise du vrai wasabi dans les restaurants, il y a vraiment une question de statut qui rentre en jeu.
Et si c'est si cher, c'est parce que c'est très difficile à cultiver. On peut penser à des montagnes éloignées. Et d'ailleurs, Christopher Laurent disait que le caractère, le kanji, utilisé pour le wasabi, ça évoque la montagne.
Absolument. Donc, dans le caractère utilisé pour le wasabi, on a le caractère de la montagne. Donc, c'est quelque chose qui est retrouvé en montagne et qui on fait toujours de nos jours pousser en montagne. C'est très difficile à faire pousser parce que ça demande de l'eau qui est pas polluée, très pure. Ça demande de l'irrigation constante. Ça pousse en général près des cours d'eau, près des petits ruisseaux, près des petits fleuves. Et c'est très difficile à faire pousser et ça demande énormément d'énergie, énormément de moyens, énormément de ressources. Donc même pour les besoins du marché japonais, la production ne suffit pas. Donc ça explique pourquoi ça coûte si cher, pourquoi c'est quelque chose de si spécial, le vrai wasabi.
Par contre, une des utilisations les plus accessibles et répandues, c'est la consommation des feuilles, qui sont un aliment courant chez les montagnards.
Au Japon, on utilise particulièrement les feuilles de wasabi. Donc les feuilles de wasabi ont un goût similaire au wasabi. Et en fait, on les coupe en petits morceaux, on les mélange avec de l'eau salée et on les laisse fermenter pendant quelques jours. Et on mange ça comme des pickles, à côté avec du riz, etc.
Assez intéressant, Paul, de voir qu'ici, on parle pas des graines pour parfumer les marinades, mais bien de la feuille de moutarde qui, en soi, devient une marinade, un pickle.
C'est un plat qui est très populaire dans les montagnes du Japon parce qu'il y a une abondance de wasabi sauvage là-bas. Mais ce n'est pas quelque chose qui est énormément consommé dans les zones urbaines du Japon. Donc, c'est vraiment un plat de la campagne du Japon.
Ici, à ce stade-là, les parallèles entre le wasabi et la moutarde ne nous ont pas satisfaits. Mais ça devient important de parler du lien botanique qui les unit parce que les deux substances viennent de la famille des
Brassicacées.
Exact.
Le wasabi est dans la même famille, c'est un cousin éloigné, mais c'est une famille énorme. C'est des milliers de différents types de plantes domestiques qui sont utilisées pour différentes choses comme le chou, le brocoli, etc. Certains ont cette caractéristique d'être épicés, puis d'autres ne l'ont pas ou l'ont moins, quoi. La raison pour laquelle certaines de ces plantes ont cette caractéristique, en fait, c'est pour se protéger des prédateurs naturels, que ce soit des insectes ou des animaux. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ça qui nous a attirés vers la moutarde. Le fait que c'est piquant, le fait qu'en fait, ça devrait nous dégoûter, c'est ça qui nous attire dans l'utilisation de la moutarde. Moi, je trouve ça fascinant aussi, ce fait.
Donc, ce qui était à la base un mécanisme de défense est devenu un rituel de séduction pour des amateurs comme nous. D'ailleurs, quand on mange quelque chose de piquant, notre corps produit des endorphines. C'est ça qui nous donne le sentiment d'euphorie.
Ce sera entre autres pour ça, cette réaction-là, qu'on aime tant la moutarde, Paul?
Je pense qu'on est polytoxicomane quand on parle de moutarde. Eh oui, donc déjà un autre épisode qui tire à sa fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué en particulier dans notre périple en Asie?
Bien évidemment, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, Paul. La première chose, c'est cette utilisation courante qui consiste à parfumer des huiles et des plats avec la moutarde. Philippe de Vienne disait justement que c'était peut-être le principal emploi de la moutarde dans le monde. Je ne savais pas ça.
Non, moi non plus.
Autre chose, ça a été de constater ces liens forts entre le wasabi et la moutarde au Japon. Christopher Laurent nous expliquait à quel point ça a façonné, on pourrait dire même parfumé, divers moments de l'histoire politique du pays. Ça m'a fasciné.
Ah ben oui. Moi, de mon côté, je m'en cache pas, je suis un homme de terrain, là, on le sait tous. C'est deux constats là, que j'ai fait à la suite de notre balade à Parc Extension. Premièrement, c'était les différentes qualités d'huile de moutarde. Donc, il y en avait des plus pâles, des plus foncées, des plus raffinées. Il y en a qui étaient pressées à froid. Ça me faisait vraiment penser à l'univers de l'huile d'olive, hein, finalement. Ça, c'était intéressant. D'une autre part, c'est l'omniprésence des graines de moutarde, des huiles de moutarde dans tous les condiments. Et il y en avait de toutes sortes. On regardait les ingrédients et c'était toujours, toujours là. Donc ça, c'était vraiment fascinant. Ça m'a frappé, ça.
Oui, moi aussi, ça m'a marqué à quel point c'était accessible et sur les tablettes. Et on se rappellera évidemment, de ces petits barils de marinade.
Ah oui, ça c'était d'une beauté inouïe.
Bon, eh bien, c'est ce qui conclut déjà notre périple dans les deux pôles asiatiques de la moutarde que sont l'Inde et le Japon. On aurait également pu parler du grand engouement qu'ont les Chinois pour les feuilles de moutarde. Ils en mangent comme on mangerait du chou ou de leur utilisation de la moutarde dans la médecine végétale, par exemple.
Oui, et puis on aura l'occasion d'en reparler dans notre épisode sur la moutarde et la santé.
Excellent. Sinon, il y a d'autres pays asiatiques qui utilisent la moutarde sous diverses formes.
Eh oui, et c'est notamment le cas du Vietnam, qui sert des feuilles de chou moutarde fermentées, un peu comme du kimchi. Il y a aussi la Thaïlande, qui consomme les pousses, ainsi que la Corée, qui a une moutarde assez forte qui s'apparente un peu à la moutarde chinoise. C'est censé être très, très bon avec des nouilles.
Bref, on aurait du matériel pour en faire deux ou trois saisons complètes de 10 épisodes.
Minimum.
Pour cet épisode sur l'Asie, on aimerait remercier Philippe de Vienne de chez Épices de Cru.
Oui, et Vina Gokhale, qui est une école de cuisine indienne végétarienne qui s'appelle Slurp, avec 4 R, donc Slurp.
Également Guillaume Lozeau du restaurant Super Qualité sur la rue Bélanger. Je suis allé récemment puis c'était vraiment top.
Ouais, j'ai regardé le menu puis ça a l'air très, très bon. Il y a Christopher Laurent qui poursuit ses recherches à San Francisco.
Oui, puis j'aimerais remercier un de ses collègues du Cérium, Jean-Frédéric Légaré-Tremblay, qui à l'époque nous avait mis en contact. Donc, pour chacun de ces intervenants, on va mettre des hyperliens dans notre description de l'épisode pour que vous ayez voir leur travail.
Ouais.
Dans notre prochain épisode, Paul, on poursuit notre périple et là, on va aller visiter le vieux continent, l'Europe.
Ah, ça promet d'être intéressant. Il y a plusieurs vieilles traditions là-bas quand même.
Oui, autres que celles que l'on connaît d'emblée. Je pense notamment aux Scandinaves. Bien hâte de voir ça.
Oh oui, et la moutarde de Bénichon.
Oh, en Suisse.
D'ici là, abonnez-vous à notre balado là où vous écoutez habituellement vos podcasts. Google Play, iTunes ou directement sur la page de Choc où vous pouvez récupérer le fil RSS.
Oui, et retrouvez-nous aussi sur Facebook où vous allez pouvoir écouter des segments inédits. À venir, Paul, d'ailleurs, une recette que nous a fournie Vina Gauclet de salade à l'indienne qui implique bien sûr là, de parfumer une huile avec des graines de moutarde au tout début de la recette.
Oh là là, j'ai très très hâte d'essayer ça. Bon, mais on en est à se dire à la prochaine pour un nouveau rendez-vous moutardé. Et n'oubliez pas, si la meilleure moutarde existe uniquement dans mes rêves, de grâce, ne me réveillez pas.